On vous retrouve à 8h pour le journal et tout de suite c'est Camille Magnard pour la revue de presse internationale. L'actualité nous emmène, Camille, aujourd'hui à nouveau ce matin en Algérie pour le 20e acte du soulèvement citoyen.
Oui, mais aujourd'hui ça ne devrait pas être un vendredi de manifestation de plus, à en croire la presse algérienne. Le week-end qui commence sera décisif, nous annonce d'emblée Tout sur l'Algérie. Décisif pour le sort du système politique, du pouvoir en place entre mainmise de l'armée et persistance de l'ancien système FLN. Décisif pour le Irak, ce mouvement populaire qui a fait tomber le président Bouteflika mais ne compte pas s'en arrêter là. Et enfin décisif pour les partis de l'opposition établie qui se réunissent demain et semblent à la croisée des chemins. Entrer dans le jeu du dialogue national proposé par le pouvoir intérimaire ou bien rester aux côtés de la société civile ou demander plus, c'est cela justement, cette croisée des chemins pour l'opposition. On va y revenir. Et puis bien sûr, nous explique El Watan, ce 20e vendredi de protestation coïncide avec la fête de l'indépendance, anniversaire de ce 5 juillet 1962 où fut créé l'État indépendant d'Algérie. Les slogans d'aujourd'hui d'ailleurs parlent de marcher ensemble, parti, syndicat, association, vers la deuxième indépendance, celle qui va affranchir le peuple algérien du joug de l'armée et de l'ancien régime. Dans son dessin d'hier pour Liberté Algérie, l'incontournable Dilem ne disait pas autre chose quand il représentait un manifestant, drapeau algérien à la main, avec ce titre « La guerre de libération s'est arrêtée le 5 juillet 1962 pour reprendre le 22 février 2019. C'était il y a 4 mois donc, quand le peuple s'est soulevé à nouveau pour en quelque sorte parachever son indépendance.
Si ce vendredi s'annonce crucial, c'est aussi parce que les événements se sont un peu bousculés ces derniers jours en Algérie.
Oui, avec ce dernier rebondissement raconté par l'édition algérienne du Huffington Post, le discours mercredi du président par intérim Abdelkader Ben Salah. Pour la première fois, il a proposé aux Algériens un dialogue national pour poser les bases de l'après Bouteflika en garantissant que ni l'armée, ni l'ancien pouvoir n'y prendraient part. Là aussi, le maître mot, c'est l'indépendance du processus de transition qui serait laissée entre les seules mains de la société civile, des partis politiques et des personnalités, elles aussi présentées comme indépendantes. Alors en apparence, il semble bien y avoir une volonté d'ouverture de la part d'un pouvoir décrit comme moribond aux abois par le HuffPost, même si le site d'info Maghreb émergent lui n'en retient surtout que ni le président ni le premier ministre n'annoncent leur prochaine démission et donc que ce pouvoir esquive à nouveau les véritables revendications du peuple algérien. El Watan enfin voyait dans le discours de Ben Salah surtout le risque d'une douce récupération du Irak, un peu comme cela avait été le cas en Tunisie après la révolution de 2011. Alors est-ce que cette main tendue du dialogue national indépendant va être saisie par le peuple et par ses leaders? C'est loin d'être sûr en fait. Pour Tout sur l'Algérie, ça va dépendre des slogans qui vont être criés, repris par la foule ce vendredi. Ils donneront le ton des assises des forces du changement organisées demain par une partie de l'opposition.
Nous partons à présent en Russie, où la presse se débat Camille Magnard dans les eaux troubles du secret militaire.
Et ça fait déjà 4 jours qu'un sous-marin russe a été victime d'une avarie en mer de Barents, aux confins nord-ouest du pays. Selon la version officielle rappelée par le site lenta.ru, un incendie s'est déclaré à bord dans le compartiment des batteries. 14 sous-mariniers ont été tués en faisant le nécessaire pour que le reste du submersible ne soit pas endommagé. Ce sont des héros nationaux. Le sens du sacrifice dont ils ont fait preuve a d'ailleurs été loué hier par le Kremlin et honoré dans la cathédrale navale Nikolski de la ville de Kronstadt, tout près de Saint-Pétersbourg. Une fois que l'on a dit cela, note tout de même la Novaya Gazeta, une fois qu'on a réussi à arracher à la grande muette l'identité des 14 victimes, il reste une infinité de questions. Questions que les médias russes, en tout cas ceux qui ne s'en tiennent pas au communiqué du Kremlin, ont bataillé toute la semaine pour faire émerger. D'abord, le modèle du sous-marin, présenté au départ comme un appareil à propulsion diesel, il a fallu 3 jours pour qu'hier le ministre de la Défense reconnaisse enfin qu'il s'agissait d'un sous-marin nucléaire. Sergueï Choïgou en a d'ailleurs profité pour démentir les rumeurs. Il n'y aurait eu aucune irradiation, le réacteur du sous-marin ayant été préservé en état de marche, justement grâce au sacrifice des 14 sous-mariniers décédés.
Ce que le Kremlin d'ailleurs a aussi mis plusieurs jours à reconnaître, c'est que le modèle de sous-marin en question est le plus secret de la flotte russe.
Oui, ça confirme des informations dévoilées dès mardi par le quotidien Kommersant. Il s'agit d'un Locharik AS-31. moyen, un petit submersible capable de naviguer en très grande profondeur, capable aussi de se tapir sur les fonds marins, officiellement pour y mener des missions d'observation scientifique, mais plus assurément, selon les craintes du Pentagone américain, pour y mener des opérations de réparation, de sabotage ou même de piratage des énormes câbles sous-marins par lesquels transite tout l'Internet mondial à travers les océans du globe. En l'occurrence, observe Novaya Gazeta, le mystère reste total autour de la mission qu'effectuait le Locharik AS-31 au moment de l'incendie. Et il y a bien peu de chances que ce secret d'État-là soit dévoilé. Tout ce que la place de Moscou compte désormais comme journaliste d'investigation se passionne enfin avec le journal en ligne Medusa, par exemple, pour un dernier point. Pourquoi donc est-ce que parmi les 14 victimes, on trouve un tel nombre de hauts gradés, 11 capitaines, dont 7 de premier rang et 2 porteurs de la médaille des héros de la nation russe? Cet équipage inhabituel alimente bon nombre de spéculations sur la nature réelle de la mission du Locharik, car il faut bien le dire, personne ne croit vraiment en Russie à la thèse officielle des relevés topographiques sur le fond de la mer de Barents, vu que cette mer, c'est le terrain de jeu préféré de la marine russe et qu'elle en connaît déjà les moindres replis.